Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Restaurer les terres, restaurer l'espoir, c'était le thème principal de la 17e conférence des parties COP17 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui s'est tenue du 17 au 28 août 2026 à Ulaanbaatar en Mongolie. Cette COP17 s'est tenue dans un contexte marqué par une dégradation croissante des terres agricoles et pastorales. Au Mali, cette situation affecte directement les productions agricoles et pastorales, fragilise les revenus des ménages ruraux, accentue la dépendance au marché et renforce la vulnérabilité des populations. Quelles solutions pour restaurer nos terres? Avec quels moyens? Et surtout, comment passer des engagements aux actions concrètes sur le terrain? C'est autour de ces questions que nous allons échanger avec nos invités qui sont Madame Si Kadiatou Tangara, elle est chargée de l'environnement à la CAFO. Bonsoir Madame.
Bonsoir.
Et notre second invité, c'est Dr Fodé Diallo, il est expert en changement climatique. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui, c'est COP17, restaurer les terres, restaurer l'espoir. Quelle est retombée pour le Mali? Alors, Madame Kadiatou Tangara, j'imagine que vous avez suivi les travaux depuis le Mali. Quels ont été les points forts de cette COP?
Ok. Merci bien, Marion. Merci pour l'invitation ici au studio Tamani. Comme vous l'avez si bien dit, l'activité cette année vient de se terminer. De Mongolie, les représentants du Mali sont bien arrivés au Mali. Le thème cette année, c'est vraiment restaurer les terres, restaurer l'espoir, comme ils l'ont dit. Selon les sources qui nous sont parvenues, il y avait trois grandes lignes qui ont été discutés lors de cette rencontre internationale. Mmh. Il y a en premier lieu le pastoralisme et la gestion des parcours. Donc, en général, et les autorités qui étaient sur place ont dédié cette année l'année internationale des parcours et des passeurs. Donc, en deuxième lieu, ils ont discuté sur le système alimentaire et la santé des sols. Donc, quand on parle de restaurer les terres, il s'agit des sols en général, des sols menacés, comment leur donner leur éclat d'antan. C'est pas chose facile, mais avec les activités que nous essayons de mener partout dans le monde, nous serons que et ce seront des activités qui vont donner des résultats à la source. Donc, en troisième lieu, ils ont parlé de financement et la mobilisation du secteur privé. Voilà. Donc, quand on parle de restaurer, il s'agit d'avoir les moyens de le faire. Donc, cette année, ils ont beaucoup mis l'accent sur le financement et incité le secteur privé à s'y donner aussi. Voilà. Donc, en un premier lieu, c'est de ça que je peux
avancer. Et c'est pertinent. Alors, ouais. Docteur Fodé Diallo, vous êtes expert en changement climatique. Vous avez plusieurs casquettes aussi, dont vétérinaire et ingénieur en élevage, si je ne m'abuse. Donc, vous avez aussi suivi, j'imagine, les travaux de cette COP. Qu'est-ce que vous avez à dire et en plus de ce que votre co-débattrice vient d'annoncer?
D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à vous, à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Je remercie particulièrement les plus hautes autorités qui ont voulu faire les déplacements d'ici jusqu'à Mongolie par rapport à ce sujet qui est très important pour un pays comme le Mali. Ce que je retiens vraiment, les thèmes d'actualité, les différentes COP, hein, et particulièrement ce sujet-là qui nous réunit aujourd'hui, qui parle de la restauration des terres dégradées. Le Mali est un pays où une grande partie des terres est pratiquement envahie par le sable, la sécheresse, la désertification avance à grands pas. Ensuite, le Mali est un grand pays d'élevage, deuxième dans l'espace CEDEAO et premier dans l'espace IUMOA, l'élevage occupe une grande place et est menacé par les pratiques, surtout la dégradation des ressources naturelles. Donc ce thème-là est d'actualité et j'apprécie beaucoup. Maintenant, les sujets discutés, c'était important aussi, à savoir la restauration des terres dégradées, la gestion des parcours des animaux et l'avancée du désert. Maintenant, ce qui n'a pas été au rendez-vous, qui devrait être au rendez-vous, ça c'est le protocole contraignant.
Et c'est quoi ?
Ouais, ce protocole contraignant, c'était pour, juste pour prendre des initiatives, des actions et aussi pour contraindre certains pays à payer certaines, à investir, c'est-à-dire à payer à mettre à la disposition de nos pays des fonds pour pouvoir gérer ces parcours-là et ensuite à exiger à ce que chaque partie puisse respecter ses engagements pour la gestion idoine de ses ressources naturelles.
Donc c'est là à faire défaut.
Oui, l'Afrique était partie avec ça, mais on a reporté à la prochaine séance du COP 18. Donc ça a fait défaut. Mais ce qu'on retient, c'est que la présence du Mali, ensuite, le fait que le ministre de l'Environnement, madame la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, elle-même, elle a évoqué que vraiment le Mali est dans la dynamique de concrétiser ses engagements, notamment renforcer la capacité, renforcement des capacités des acteurs dans le développement, dans la récupération des terres dégradées, en faveur du pastoralisme, etc., des points d'eau aussi. Parce que les points d'eau, les animaux cherchent les points d'eau, généralement ensuite les pâturages, etc., etc.
Et malheureusement, le ministère de l'Environnement n'a pas souhaité participer à ce débat. Nos sollicitations sont restées vaines. Alors, Madame Sy Kadiatou Tangara, comme je le disais, vous êtes chargée de l'environnement à la CAFO. Et comment cette dégradation des terres impacte les femmes?
Il y a beaucoup de problèmes dans ce sens. Parce que, pas seulement les femmes, c'est la famille en général. Parce que quand les terres et subissent des problèmes, les sols sont dégradés, il y a la famine qui survient parce que la quantité de production suffisante n'est pas là. Donc c'est toute la famine qui est impactée, pas seulement les femmes. Donc c'est pour vous dire que la dégradation des sols, les problèmes sont immenses. Les problèmes sont à beaucoup de niveaux. Donc, par rapport aux activités qu'elles mènent quotidiennement, ça impacte sur ces activités. Mais au fur et à mesure, elles cherchent des solutions pour sortir de ces problèmes. Donc, il faut qu'on leur laisse le temps de bien voir comment est-ce que ces solutions peuvent être des solutions valables.
Alors,
pour s'en sortir.
Merci beaucoup, Madame Sy. Mm-hmm. Et Dr Fodé Diallo, vous êtes expert en changement climatique. Nous parlons de dégradation des terres, mais qu'est-ce qu'une dégradation des terres? Comment est-ce qu'on sait qu'une terre est dégradée?
Ok, d'accord. Est-ce que c'est possible de revenir un peu sur sa question?
Allez-y.
Ok, d'accord. Mm-hmm. Les femmes sont beaucoup impactées par le changement climatique, c'est-à-dire cette dégradation des terres, mm-hmm. parce que dans nos activités de recherche, on a eu la curiosité de voir un peu l'implication des femmes dans les activités de production agricole. À tous les niveaux, elle est la première à se réveiller et c'est elle qui gère les bois de chauffe, etc., etc. Donc, si ces ressources-là font défaut, ça va impacter. Ensuite, les femmes, dans la biologie même, c'est elles qui font la conception. Maintenant, au cours de la grossesse, s'il y a certains denrées alimentaires, même si tous certains légumes, certains fruits manquent, ça peut jouer sur la grossesse. Donc, on a eu quelques activités de recherche là-dessus. Mm-hmm. Maintenant, pour revenir à votre question, la dégradation des sols ou la dégradation des terres n'est autre que quand la terre n'a plus la possibilité de jouer sa fonction, c'est-à-dire son rôle de rétention d'eau, de mettre à la disposition des plantes des nutriments, ou bien de garder les microflores, les micro-organismes qui se trouvent dans le sol, pour pouvoir transformer une partie du sol-là en couche arable fertile, et pour que les plantes puissent bénéficier. Parce que quand le sol est fertile, les plantes vont bénéficier, Et il y a des animaux herbivores qui vont les brouter pour les herbes naturelles. Maintenant, nous aussi, les hommes, nous utilisons des cultures, des plantes cultivables telles que les riz, les mils, les maïs, etc. Et le sol est le substrat pour ces plantes. Donc, c'est comme son grenier. Pour les animaux aussi, même pour les animaux carnivores. Parce que les carnivores vont consommer les herbivores et les herbivores se nourrissent des plantes. Quand le sol est dégradé, qu'il n'arrive plus à jouer sa fonction, vous allez voir qu'il n'y a plus d'herbe. Ce n'est plus possible de faire la culture et que ces cultures-là puissent donner leur potentiel génétique. Ça, donc, ça va jouer sur le rendement, etc., etc.
Qu'est-ce qui en est à l'origine?
Ce qui en est à l'origine de la dégradation, voilà, il y a plusieurs sources. D'abord, ça peut être dû aux activités anthropiques, c'est-à-dire les activités des hommes, telles que l'utilisation abusive des machines agricoles, l'urbanisation, ou bien le coupe abusive des bois, parce que le bois est pratiquement consommé dans beaucoup de pays, et surtout dans nos pays. Ensuite, il y a même la forte chaleur. Les inondations peuvent provoquer la dégradation des terres, les mauvaises pratiques, même certaines installations routières, etc. Si les dispositions n'ont pas été prises au préalable, ça peut provoquer la dégradation des sols. Vous allez voir que le sol est fendillé, ou bien une grande partie va partir, ou bien il n'y a plus d'herbe. Même certains produits chimiques, même des déchets peuvent provoquer la dégradation des sols, des terres. Donc les déchets domestiques, etc. Par exemple, si une forêt est envahie par les déchets d'une ville, vous allez voir que cette partie-là va carrément, il n'y aura plus de végétation. Et ces sachets plastiques, ces verres, ces fers, etc., vont descendre au fur et à mesure. Et ensuite, il y a une autre forme de dégradation, ça c'est chimique. Ça c'est l'utilisation des produits chimiques, ça dans les zones d'or, par exemple, dans les mines d'or. Vous allez voir qu'ils vont utiliser des cyanures. Et là, ça va carrément détruire la microflore, les microflores du sol, au niveau de la terre. Et ensuite, aucune vie n'est possible là-bas. Voilà un peu la dégradation.
Merci, docteur. Madame Sikadiatou Tangara. Et qu'est-ce que la société civile mène comme action concrète sur le terrain en termes de sensibilisation pour prévenir un peu la dégradation des terres ou des sols?
Bon, la société civile en général, comme je l'ai dit précédemment, nous faisons des formations et nous passons l'information aussi. Parce qu'il faut que, lors des sensibilisations, nous informons en général les femmes pour qu'elles connaissent la réalité des choses. Parce qu'avec l'avancée du changement, les changements climatiques aussi, il y a beaucoup d'actions que nous menons, que nous faisons, qui jouent sur le sol, qui jouent sur les activités que nous faisons d'habitude. Donc, en nous les informant, par exemple, à changer de leur façon de faire les formations peuvent être, par exemple, de faire des foyers améliorés en banco. On a eu à faire des séances de formation des femmes pour qu'elles puissent utiliser moins de bois. Donc, il y a des formations aussi, comment restaurer aussi la terre. Et comme on l'a dit précédemment, avec la pasteurisation et autres, et on leur dit qu'il est bien de d'élever les animaux à côté de leur jardin. Donc, ça leur permet d'utiliser les déchets de ces animaux comme fertilisants naturels. Donc, ce sont des séances comme ça qu'elles utilisent au lieu d'utiliser les produits chimiques. Donc, c'est fertilisant naturel. Et on les forme aussi à faire du compost. Vous savez que dans chaque famille, il y a des restes d'aliments et autres. Donc, ces composts, nous avons eu la chance d'avoir des formateurs, des professeurs des facultés, des sciences techniques, et à former les femmes à faire des composts aérobies avec les restes d'aliments, les restes de feuilles et autres. Donc, ces composts-là, elles peuvent les utiliser elles-mêmes dans leurs champs. Donc, ce sont ces petites activités. Bon, on dit petites activités, mm-hmm. mais ce sont des trucs, quand elles ont cette formation, des femmes aux jeunes, on se dit que c'est des éléments clés qu'on fait à côté de soi pour vraiment être au même niveau, pour anticiper cette désertification et avancer. Voilà.
Merci beaucoup. Docteur Fodé Diallo, face à la baisse de rendement agricole liée à la sécheresse et à l'appauvrissement des sols, comment les familles rurales parviennent-elles à faire face au quotidien selon vous?
Bon, actuellement, ce que les familles sont en train de faire face à cette situation, parce qu'il y a baisse des rendements mm-hmm. à tous les niveaux, même il y a baisse de productivité au niveau en élevage. Hein. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'animaux qui n'arrivent plus à amener à terme leur gestation. Les familles ont adopté certaines postures. D'autres sont allées vers l'exode rural, l'abandon des terres culturelles, ou bien ensuite ils vont aller explorer d'autres surfaces, c'est-à-dire essayer d'aller chercher d'autres champs à côté. Aussi, il y a des projets. Et avec l'État et ses partenaires, comme elle vient de dire, madame, mm-hmm. il y a beaucoup d'activités qui sont en train d'être menées par certains acteurs du développement rural pour pouvoir faire le compost, que ce soit liquide ou bien solide. Ensuite, il y a certaines activités de récupération des terres dégradées à travers les ailes, les demi-lunes, etc. etc. bien mm-hmm. que ce n'est pas trop vulgarisé et aussi... ce n'est pas connu de partout. Il y a beaucoup d'actions aussi qui doivent être menées. Mais certaines familles parviennent petit à petit à gérer. Maintenant, certains aussi vont changer carrément d'activité. Ils vont aller vers l'orpaillage, les zones d'orpaillage. Vraiment, c'est des alternatives qui ne sont pas trop souhaitables parce que ça dégrade aussi encore l'environnement. Mais ils se débrouillent petit à petit. Maintenant, certains aussi, parce que empiriquement, il y a des variétés plus résistantes. Ils sont en train d'aller chercher aussi ces variétés-là. D'autres sont en train de chercher des variétés plus précoces, plus adaptées pour pouvoir sortir de la situation. Donc, il y a beaucoup d'actions maintenant, même si ce n'est pas trop coordonné, qui sont en train d'être menées par les populations actuellement. Maintenant, au futur, ce qui est bien, peut-être la question va venir, on va essayer de parler de ça.
D'accord.
Merci.
Madame Sikayatou Tangara, et peut-on dire aujourd'hui que la restauration des terres peut aussi permettre de prévenir les conflits intercommunautaires?
Oui, on peut le dire parce que les conflits, généralement, commencent par les déplacements des personnes. Actuellement, avec la pasteurisation et les cultivateurs, donc ce conflit, il est normal parce que le cultivateur, lui, ne voit que son champ. Et l'éleveur, lui, veut seulement le passage de ses animaux. Dans ces petits conflits, et quand il n'y a pas de source de nourriture pour ces animaux, ils vont vers les champs des agriculteurs. Et si les terres sont vraiment riches, ils auront beaucoup de nourriture, donc il n'y aura pas ce conflit entre agriculteurs et éleveurs. Je crois que c'est le principal conflit majeur dans la dégradation des terres, parce que c'est ce qui les permet de se rapprocher. Mm-hmm. Sinon, quand il y a de l'espace et quand c'est bien fleuri, quand il y a des fourrages et autres partout, donc ils se rencontrent rarement. Maintenant, la population est elle-même. On se dit souvent que c'est quand on n'a rien à faire qu'on engage vraiment les conflits. Mais quand il y a des activités qui nous apportent beaucoup. Donc, est-ce qu'ils auront ce temps? Donc, en fait, il y a le manque de revenus incessants qui vraiment incite la population à, je sais pas, à se quereller et à faire d'autres choses. Maintenant, comme solution, on se dit qu'avec les différents projets qui sont là, comme je l'ai dit, les associations féminines, généralement, il y a des projets qui viennent vers eux, comme le docteur vient de le dire, il y a des activités des activités qui mènent pour vraiment la rétention d'eau, des activités de cordon pureux et autres. Donc, ce sont des activités, quand ils font ces apprentissages, ça leur permet de faire après les 4 mois ou 6 mois de période pluvieuse, ça leur permet de faire d'autres activités en dehors de la période pluvieuse. Donc, ces activités leur apportent des revenus. Donc, avec ces revenus, les jeunes n'ont pas besoin de faire l'exode tout le temps. Donc, ils sont stables en ce moment. Et ces activités leur permettent aussi de s'épanouir, d'avoir des revenus pour vraiment rester sur place. Et c'est très important. Donc, on aimerait à ce que beaucoup d'activités similaires soient financées, que ce soit par l'État, que ce soit par les ONG, pour que ça permet d'éviter beaucoup de conflits. Et surtout la sensibilisation aussi.
Nous allons donner la parole au docteur Fodé Diallo. Il est expert en changement climatique. Alors, docteur, est-ce qu'il existe aujourd'hui des politiques pour protéger les pâturages, les points d'eau et les couloirs de transhumance?
Oui, il existe des politiques. D'abord, la politique de développement rural au Mali, la loi d'orientation agricole. Il y a beaucoup de mécanismes, de textes qui sont mis en place. Parce que le Mali a ratifié beaucoup de conventions liées à la biodiversité, au changement, à la lutte ou à l'adaptation au changement climatique et puis à la désertification. Donc il y a beaucoup de textes en ce sens. Mais les mises en œuvre posent beaucoup de problèmes parce que ça doit être soutenu par des financements, ça doit être soutenu par des formations, des renforcements des capacités, ça doit être soutenu par la vulgarisation. Des bonnes pratiques, que ce soit en agriculture, en élevage, en orpaillage, en extraction minière, etc., etc. Donc voilà un peu ce qui existe sur le terrain.
Est-ce que ça marche? Ce qui existe sur le terrain, est-ce que ça marche dans la pratique?
Dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Il y a beaucoup de lacunes, si je ne m'abuse pas. Oui. Donc pour moi, d'abord, il faut aller vers la formation. Il faut que chacun s'en approprie de cette chose-là. Tous les acteurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau local, que ce soit même les privés. Parce qu'au niveau des COP, les pays les plus développés, généralement, ils prennent des promesses pour pouvoir financer, mais il n'y a pas de financement. Mais maintenant, des solutions doivent être envisager au niveau local, à travers les partenaires techniques et financiers privés même qui sont ici, les opérateurs économiques. Normalement, toute activité génératrice de revenus à un certain niveau doit être capable de mobiliser certains fonds, une partie de ces fonds pour pouvoir restaurer la terre ou pour pouvoir lutter contre la désertification. Parce que c'est une question de santé publique, de survie. Parce que les besoins sont limités, les besoins sont sans fin, mais les ressources sont limitées. Comme elle a, si vous avez la question précédente, par rapport au conflit, les gens sont en train de partir vers les ressources naturelles, qui sont malheureusement limitées dans le temps et dans l'espace. Mais maintenant, les besoins croient de façon incontrôlée. L'urbanisation, tout. Donc, il faut vraiment que l'État et ses partenaires, que ce soit au niveau local, au niveau macro et au niveau micro, que chacun essaie de s'impliquer pour pouvoir mettre en place. Maintenant, de façon spécifique, d'abord, ça passe par la formation. Une formation, ensuite une vulgarisation des bonnes pratiques, des textes, et ensuite l'application stricte de ces textes-là qui sont vulgarisées, des contraintes, etc., etc. Donc je pense qu'avec ça, ça peut aller. Parce qu'on est obligé de passer par ça.
Il y a beaucoup d'appels à l'endroit des autorités, mais malheureusement, le ministère de l'Environnement n'est pas présent sur le plateau.
Oui.
C'est ainsi que nous allons donner la parole à Mme Si Kadiatou Tangara. Elle est chargée de l'environnement à la CAFO. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez que les femmes devraient faire en termes de résilience face au changement climatique que sévit actuellement dans le monde et précisément au Mali?
D'accord. Ce que les femmes doivent faire.
Mm-hmm.
D'accord. Avant d'arriver à ce que les femmes doivent faire, il y a certaines initiatives qui ont eu de l'effet. Par exemple, les initiatives locales, et quand on parle de Reverdi Mopti, Reverdi Ségou, ce sont des grandes initiatives faites par les femmes, les jeunes. Ces initiatives ont permis de reboiser beaucoup d'hectares, de restaurer beaucoup d'hectares. Il y a aussi la Brigade Verte pour l'emploi. Ce sont des financements obtenus grâce aux ONG. Il y a aussi la Grande Muraille Verte. Quand on parle de restauration des terres, la Grande Muraille Verte a fait beaucoup avec les femmes. Donc, que ce soit les formations, que ce soit les sensibilisations. Donc, ça, ce sont les accompagnements qui ont été faits avant. Donc, actuellement, comme je l'avais dit précédemment, les femmes sont à pied d'œuvre. Elles sont à pied d'œuvre, mais elles ont besoin d'accompagnement. Elles ont besoin d'accompagnement, sinon, et à commencer par l'assainissement d'abord.
Mm-hmm.
Parce que ça, c'est quelque chose qui est déjà dédié aux femmes. Et quand on parle d'assainissement, on parle de tri des déchets. Et le sol subit beaucoup de conséquences par rapport au plastique, à tout ce qui est nuisible, nuisible au sol. Donc, les femmes participent, en tout cas, on les forme actuellement dans ce sens, pour qu'elles participent d'abord à faire le tri des déchets, en passant par l'assainissement. Donc, tout récemment, nous avons fait un lancement d'un projet CAFO Carré à Bamako, ici, un projet d'une année. Et ce projet, c'est pour dédier des rues spécifiques aux femmes de la CAFO d'abord, à Bamako, ici. Et ces rues, ce sont des rues pilotes. Donc, elles assainissent ces rues. Et elles font les tris et avec l'accompagnement de quelques partenaires, on essaie de... Même les eaux usées, comme docteur en avait parlé.
Pratiquement la fin.
La fin, ok.
Oui.
Donc, il n'y a pas de souci.
Oui.
Donc, c'est pour dire que nous sommes à pied de tous les jours. Et on se dit aussi que restaurer la terre, comme l'a dit, comme le thème, c'est un élément... Ce n'est pas seulement une question environnementale. C'est restaurer, en fait... La sécurité alimentaire.
Nous allons donner la parole au docteur Fodé Diallo. Au-delà des annonces et des engagements pris lors des conférences internationales, peut-on aujourd'hui identifier des initiatives locales qui permettront au Mali de restaurer durablement ses terres? En quelques minutes, c'est pratiquement la fin de l'émission.
Oui, on peut compter sur des initiatives locales parce que j'ai eu à faire certaines activités de recherche.
Mm-hmm.
Il y a eu des vieilles personnes qui m'ont dit beaucoup de choses, beaucoup de spéculations qui peuvent être utilisées pour pouvoir s'adapter d'abord aux terres dégradées. Et ensuite, ces initiatives locales là vont passer par d'abord une formation de base, parce que pratiquement la grande majorité de nos producteurs n'ont pas été à l'école, donc il faut les former dans les petites pratiques. Et les gens sont dévoués vers ça, hein. Donc ils ont besoin seulement d'un petit déclic pour pouvoir faire ces formations-là, ils vont adapter sur le terrain. Et de par-ci, par-là, vous allez voir que même au bord des goudrons, les constats que nous avons faits quand on fait des activités, on constate que les gens vont essayer de produire, d'aller vers des variétés plus résistantes, plus résilientes. Et ensuite, les cordons pierreux, les demi-lunes, etc., etc. Donc ensuite, la plantation des arbres. Donc voilà les initiatives locales qui peuvent nous aider un peu.
Merci beaucoup, docteur. Merci. Je sais que vous aviez beaucoup à dire, mais le temps imparti est arrivé à terme. Restaurer les terres, restaurer l'espoir, quelle retombée pour le Mali. C'était le thème du grand dialogue d'aujourd'hui et nos invités étaient Madame Si Kadiatou Tangara, chargée de l'environnement à la CAFO, docteur Fodé Diallo, vétérinaire. Il est vétérinaire, ingénieur d'élevage et aussi expert en changement climatique. Comme je l'ai dit, il a plusieurs casquettes. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir à vous présenter cette émission. La partie technique était gérée par Gagny Kanté et Nom Djiré. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine, Inch'Allah.